CFM à Castelsarrasin.
Castelsarrasin.
90.7. 90.7.
Retrouvez Qu'est-ce qu'on déguste avec Biosol, épicerie bio, avenue Gambetta à Montauban. Biosol, la nature chaque jour dans votre assiette.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour ! Oh. Vous avez entendu Georges à la manœuvre. Salut Georges.
Bonsoir tout le monde.
Le déboucheur, on le surnomme.
Salut Pascal.
Salut à tous.
Fabien, présent également.
Bonsoir tout le monde.
Aurélien est aux manettes et nous recevons ce soir Ali Mahmoudi de Château-Saint-Louis. C'est du fronton. Bonjour Ali Mahmoudi.
Bonjour tout le monde.
Voilà, vous êtes bien coincé dans les embouteillages ou confortablement installé dans votre canapé. Prenez votre temps. Nous, on a quelques bouteilles à ouvrir. On a une ribambelle de charcuterie là, de chez Monsieur Echevarne et de chez
Monsieur Tellière.
Et de chez Tellière. Alors là, bon.
Des choses à goûter, des trucs là qui vont bien. Avec
franchement,
toutes les bouteilles de vin,
ouais,
que l'on va goûter.
On y va doucement. On attaque en musique évidemment. Sur mon verre, il y a écrit Gaillac.
Ah, c'est une faute, oui. C'est une faute.
Et on les passe devant après les autres.
Ah, mais non, c'est pas possible. Je ne comprends pas pourquoi on m'appelle. Pas d'étiquette sur ce vin, qu'est-ce que c'est? Eh mais voilà, une étiquette est sur le bouchon. Montre le bouchon. Donne-lui le bouchon. Parce que c'est un vin qui n'est pas encore en vente.
Voilà, un petit coup de soleil, là, j'avais un petit, envie d'un petit peu de salsa, Yuri Buenaventura. Je ne sais plus le titre du morceau, mais en tout cas, ça danse, c'est bien, moi je trouve ça pour démarrer, là, ça fait un peu la pêche.
Je vote pour.
Grosse pêche, mais quand il était venu à Montauban Festival il y a 3 ou 4 ans, ça avait fait une excellente soirée.
Ouais, ouais.
Il était passé même au Rio Grande il y a très très longtemps.
Avant d'être connu.
Ouais. Alors voilà, c'est qu'est-ce qu'on déguste, et j'ai dans la main un bouchon. Alors je vais vous lire ce qu'il y a écrit sur ce bouchon. C'est le bouchon que vous avez entendu en tout début d'émission, hein, tout à l'heure.
En liège naturel, bien sûr.
En liège naturel, s'il vous plaît. Bon, le bien sûr, pourquoi bien sûr? Ça va amener une explication, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se met à avoir des bouchons synthétiques. Alors, chez Ali Mahmoudi, visiblement, c'est pas l'esprit. Oh, bravo. L'esprit, c'est le nom du vin qu'on est en train de boire, puisque je vais finir par arriver à vous lire quand est-ce que ça démarre. Là, voilà. 2008, Ali Mahmoudi, mise en bouteille au château. 10, 20, je sais pas à quoi ça correspond. Château Saint-Louis, l'esprit.
Voilà. L'esprit de Saint-Louis, que nous mettons en bouteille.
Le vin du Lys,
oui. Ouais. Non, merci. C'est plutôt l'esprit de Saint-Louis, c'était Spirit of Saint-Louis.
Ah, le Spirit of Saint-Louis. Ah bah voilà. Oui, d'accord.
C'était ça. L'idée, c'était le premier avion qui avait traversé l'Atlantique. Donc, c'était
pour
le
Saint-Louis du Sénégal.
Avec le, c'était Berlioz, Blériot,
mais non, Lindbergh.
Lindbergh.
Voilà.
Berlioz, c'est la Manche, en 1909.
Lindbergh.
Bon. Bravo. C'est quoi là, ça va. On va jouer à celui qui passe en séance.
Tout ça parce qu'on
reçoit un Perse, alors évidemment, on est dans la culture, évidemment.
Et si on veut la culture, ça a été remis en cause que ça soit le premier Lindbergh.
Ah bon Lindbergh,
oui, il y a pas très longtemps, il y a des Français qui font des recherches qui tendent à prouver que c'est deux Français qui ont traversé en premier.
Bon. Oui, le Brix, je sais plus quoi, mais ils sont jamais arrivés. Le problème, ils sont jamais arrivés. Donc, ils sont peut-être encore en train de nager.
Bon, alors voilà, moi, je suis le persan qui suis arrivé à faire le vin. Et
mais le vin est d'origine perse.
Non, pas tout à fait, mais d'origine
Mésopotamie
et autour de la mer Caspienne, effectivement. Mais il y a 8000 ans. Il y a 8000 ans, donc le vin a été fait pour la première fois aux alentours de la mer Caspienne. Il y a un professeur de l'université de Philadelphie qui a trouvé des preuves et qui les a à l'université. Donc il les a montrées. Et quand on regarde, il n'y a que 500 ans avant Jésus-Christ que les premiers pieds de vigne sont arrivés au sud de la France et en Espagne.
Donc, apporté par les Romains.
Apporté, bien sûr, par les Romains.
Ouais, ça fait jamais que 2500 ans, quoi.
Voilà, ça fait que 2500 ans que nous connaissons en Europe la vigne.
Donc, bon, on se disperse un peu, mais
on disperse, etc. Ouais.
Alors, on va essayer
de commencer par le début. Voilà, qu'est-ce qu'on boit et peut-être pourquoi avoir donné ce nom-là au Spirit of Saint-Louis. Vous avez une passion pour l'aviation, Ali Mahmoudi?
Oui, j'ai vraiment une passion pour l'aviation, effectivement, puisque j'ai participé à la recherche finale sur l'élaboration et certification de Concorde à l'époque quand j'étais étudiant.
Bien sûr,
j'ai mesuré le bruit de Concorde à l'atterrissage quand il y avait Turca qui était pilote.
Pas à son dernier vol, là, parce que là il a fait du bruit. Là,
Non, il a fait du bruit, j'étais pour rien. Mais pour le bruit, j'ai assisté. Effectivement, pendant 3 mois, j'ai travaillé à la SNIAS. À l'époque, on l'appelait la SNIAS, à l'aérospatiale. Et effectivement, j'aime beaucoup l'aviation, mais malheureusement, j'ai jamais pu faire ce métier. Donc, ça m'intéresse. Mais mis à part ça, l'esprit de Saint-Louis me paraissait une sorte de quintessence de Saint-Louis. C'est-à-dire que Saint-Louis, ça fait 22 hectares de vignes. Sur 22 hectares de vignes, on a des vignes plus anciennes, plus récentes. On prend les plus vieilles vignes, on les vinifie à part. Et à ce moment-là, on obtient un vin qui est probablement différent des autres qui sont avec des vignes plus jeunes. Après vieillissement, on regarde les barriques, on choisit les meilleures barriques. Parfois, on en fait beaucoup. Par exemple, 10 000, 15 000 bouteilles. Parfois, on en fait très peu. Et parfois, comme par exemple 2006, on n'en fait pas du tout de cette cuvée qui s'appelle l'esprit. Voilà l'explication.
D'accord. Alors, bon, on va faire connaissance avec vous et avec votre vignoble pendant qu'on a une heure et demie.
On a toute la nuit.
Hein, on a du temps, là. C'est la négrette, forcément, hein, qu'on est en train
de... Forcément. Ici, il y a 80% négrette. Donc, dans ce vin, à 80% négrette, pratiquement avec la législation actuelle, quand il y a 80% d'un cépage, on peut mettre le nom de cépage sur l'étiquette sans mettre un autre cépage. Donc 80% c'est beaucoup. Mais c'est ça qui lui donne sa caractéristique. Et le reste, c'est Cabernet Franc et un peu de Syrah. 5% Syrah et 15% de Cabernet Franc.
Syrah, c'est pourquoi vous l'avez rajouté? Pour la rondeur, pour
Je l'ai rajouté parce qu'il me plaisait, tout simplement. Parce qu'il était bon. Quand il est bon, on se pose plus la question pourquoi. On me laisse de côté la mathématique, les raisonnements, etc., etc. Il n'y a que le sentiment et la sensation qui compte. On goûte, quand c'est bon, on ajoute. Par contre, Cabernet Franc, est planté en 1964 et la négrette est plantée en 1967. Donc, vous voyez, c'est des vignes très anciennes. Donc, en général, on a un vin meilleur avec les vignes plus vieilles.
Donc celui qu'on est en train de boire, là, l'esprit de 2008, il sera commercialisé quand?
Alors, nous à Saint-Louis, on a une règle, c'est que on met en bouteille le vin à peu près de l'année N plus 2, c'est-à-dire 2 années plus tard, ou une année et demie plus tard.
Merci.
On le met en bouteille, mais la totalité du vin est mis en bouteille, avec un numéro de lot sur chaque bouteille. Et il est stocké dans un chai qui est réfrigéré pendant l'été et qui est maintenu à une température constante ou très peu variable, entre 12 et 16 degrés température. Et ça, c'est pendant un an ou deux, c'est ce qu'on appelle la période d'affinage. Et l'affinage se fait en bouteille parce que le vin, quand on le change de contenant, quand il arrive dans une bouteille, c'est comme quelqu'un qui arrive comme moi quand j'arrive ici, vous voyez, je connais pas les lieux, je mets du temps un peu,
je suis timide,
etc.
Voilà, on le voit bien.
Donc évidemment, je mets un peu de temps pour m'adapter aux lieux et aux personnages qui m'entourent, qui sont souvent très agressifs, n'est-ce pas? Oui.
Prends du pâté en même temps.
Voilà. Donc on affine l'esprit comme on affine un fromage.
Je ne sais pas, je ne connais pas l'affinage de fromage, mais en tout cas, je pense qu'en le laissant reposer pendant au moins 6 mois dans la bouteille, le vin se repose et le vin s'affine et il devient meilleur au goût qu'au début de l'embouteillage. Voilà, c'est pour ça que actuellement, il est dans un état presque, je dirais, avant affinage, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il a été mis en
d'ailleurs,
bouteille.
D'ailleurs, on dit que le vin, quand on l'a mis en bouteille depuis peu, il fait la maladie de la bouteille. Pendant 9 mois ou 2, il n'a plus de goût.
Exactement. Ouais. Exactement.
La maladie de la bouteille.
Ça s'appelle la maladie de la bouteille.
Exactement.
Ah, c'est marrant. Exactement. Je croyais qu'il y avait la maladie de la bouteille.
C'est pas la même.
Alors, justement, c'est pour ça que nous conseillons toujours avec modération pour ne pas avoir la maladie de la bouteille pour les gens.
Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas dit, ça, avec modération.
Modération. Puisque tu as la parole, Georges Gardelat, pour nous présenter un groupe ô combien magnifique qui joue ce soir à Montauban, Tarn-et-Garonne, France.
Non, c'est pas de l'autopub.
Non, c'est pas ça. Ah oui, c'est carrément de l'autopub.
C'est de l'autopub. Hein.
Non, c'est pas ça. Il fallait pas.
Si, mais on va le présenter. Bon, ce soir, il y a un groupe qui joue au Vendange chez Mado. Pas Mado la niçoise, mais pardon, Mado la montalbanaise. Et un groupe de jazz, un trio, Midnight Trio, avec comme un guitariste, un pianiste et un contrebassiste. Donc ça sera à partir de 20h. Chez Mado, c'est restaurant, bar tapas, où on boit de super
vins. Pas bar tabac, hein, bar tapas.
Où on boit de super vins, et de temps en temps, il y a de la très bonne musique. Et là,
il y a du bon vent aussi.
Écoutez un morceau.
Il parle dans le micro, oui.
Le morceau s'appelle Corcovado.
C'est lequel? Le 1, le 2, le 3?
On l'a refait, alors c'est le numéro 5, pense Corcovado, qui est une samba, une bossa nova plutôt.
Voilà, et pour être tout à fait clair, à la contrebasse, c'est monsieur Georges Bonfils lui-même. Donc en fait, dès que t'as fini l'émission, hop, tu files.
Je file chez Mado. Thank you.
Il est bien le contrebassiste là, il joue.
Il est sympa, oui, il est pas mal. Ambiance jazzy.
On l'entend pas trop comme ça.
Un petit, aussi un petit peu, tu as pas prêté l'oreille. Mais donc ce soir, Midnight Trio au Vendange, Faubourg-la-Capelle, dans le centre Montauban, à côté de la préfecture.
Ça marche, à tout à l'heure. Alors dans Qu'est-ce qu'on déguste ce soir, nous recevons donc Ali Mahmoudi, Château Saint-Louis. C'est du fronton, il est bon, on va arrêter de la faire celle-là. On vient de déguster l'esprit, une des cuvées du Château Saint-Louis.
Oui, parce qu'on fait une dégustation verticale. Alors ça veut dire quoi faire une dégustation verticale? Quand j'ai dit ça à Rémi, il m'a dit, mais attends, est-ce qu'on va boire debout? Je lui ai dit, on va boire couché, on va boire assis.
C'est la descente qui est verticale.
La descente est verticale. La descente, c'est quoi une dégustation verticale?
Allez, effectivement, c'est une expression. Dans le métier, on dit la dégustation verticale puisqu'on descend les millésimes. Donc, quand on descend les millésimes, on appelle ça verticale parce qu'on peut faire une dégustation horizontale, c'est-à-dire le même millésime et des diverses cuvées. Donc, les diverses cuvées du même millésime, c'est horizontal.
C'est une horizontale.
Et la même cuvée dans diverses millésimes, c'est vertical.
Ça n'a rien à voir, le fait d'être debout, couché, assis.
Et on peut associer à pas mal de choses, effectivement. Hein. On peut.
Viens chez moi, je vais te faire une horizontale.
Oui,
non, là, c'est autre chose.
On peut faire un vertical. On peut faire une dégustation verticale et le reste aussi en vertical, mais c'est possible.
Donc
mais...
là, on goûte. Yes.
Avoir les goûte
le même vin,
la même cuvée, mais en millésime
différente à chaque fois
en descendant le millésime, c'est-à-dire tout à l'heure c'était
le plus jeune
et 2007, on descend 2005. On est descendu, donc maintenant on est en 2007 était en 2008. Ah, mais j'ai voulu aller jusqu'en 2001 et même en dessous, mais finalement, tu m'as empêché parce que tu m'as dit que ça faisait trop de bouteilles. Sinon, effectivement, nous pouvons descendre jusqu'au pratiquement 91, l'année de l'achat de la propriété.
Et c'est toujours bon.
Puisque nous avons, à ça, je garantis rien.
Ali Mahmoudi, qu'est-ce qui vous a emmené à devenir vigneron?
Ah, ce qui m'a amené.
L'amour.
L'amour, bien sûr. Oui, c'est une question qui vient très souvent, mais franchement, je me la pose. Je me dis pourquoi j'ai fait ça.
Qu'est-ce que vous faisiez avant 91?
Avant 91, c'est là que j'étais tombé dans le piège. Avant 91, j'étais déjà négociant avec mon beau-père. Et j'ai passé d'excellentes années d'apprentissage, de métier avec mon beau-père qui était négociant distillateur. Donc, je crois que c'est mon beau-père avec sa passion et son amour qui m'a donné cette passion. C'est lui qui m'a transmis cette passion pour le vin. Et je le remercierai jamais assez. Il n'est plus là, malheureusement. Et donc en 91, effectivement, il y avait une opportunité. Et j'ai acheté cette propriété qui était complètement en ruine. Et le défi, c'était de relever, de rebâtir, de refaire. Et maintenant, depuis, ça va.
Vous dites que vous n'étiez pas sûr de la qualité des vins de 91. C'est un vin qui se garde, qui se boit au bout de combien de temps ou sur combien de temps le salon?
Alors franchement, à la base, je suis un scientifique puisque je suis physicien. Donc après, je suis œnologue.
Avant tout, je suis physicien. C'est marrant, ça. E égale MC2, tous ces trucs-là.
E égale MC2, physique atomique, option radiologique, etc. J'ai enseigné la physique radiologique pendant 4 ans à la faculté de médecine à Paris. Mais c'est très loin, tout ça. Mais avec l'esprit scientifique que j'ai, on ne peut pas corréler, on ne peut pas modéliser comme ça aussi facilement de dire... On peut dire, on peut sentir, on peut goûter un vin et prévoir sa durée de vie, mais ça reste tout à fait un sentiment subjectif et bon, probablement juste.
Comme tous les frontons, parce qu'il n'a pas répondu, c'est un politique.
Non, mais il y a quand même des vins qui sont des vins de garde longue.
6 ans, 7 ans, on revoit.
Alors, moi, je fais confiance aux autres. Moi, quand j'ai vu des articles, par exemple, sur 2003, que vous allez goûter en dernier, j'ai vu les sommeliers qui écrivaient ce vin, il sera très bon dans 12 ans. Donc on va voir si j'ai raison. Ouais. Si j'ai une raison.
En principe, la négrette n'est pas faite pour le vieillissement, mais dernièrement, on a goûté une négrette 98 qui était pas mal du tout.
Voilà.
Ça prouve. Elle était orangée, la négrette 98.
Elle était orangée. Mais oui, orangée, parce que c'était vraiment un gros rendement. Ça.
Alors quand même, un mot sur le goût de celui-ci qui est radicalement différent du précédent. Hein.
Voilà, tout à fait. L'effet millésime est là. Parce que l'effet millésime est très très important. Le millésime, c'est le terroir avec son climat. C'est le climat de l'année qui a fait que ce même terroir a donné ce vin plutôt que l'autre. Donc ça, c'est très important. Et en plus, comme notre engagement en agriculture biologique a été effectué en 2005, donc depuis 2005, le goût probablement change puisqu'il n'y a plus de pesticides dans le sol, il n'y a plus de pesticides sur les feuilles.
Il y en avait beaucoup avant.
Il y en avait comme tout le monde, chez tout le monde, c'est-à-dire 13, 14 traitements de pesticides par an, chaque année, bien sûr, puisqu'il pleut, chaque fois qu'il pleut.
Il faut remettre un traitement.
Il faut remettre un traitement, bien sûr, parfois 8, parfois 7.
Chaque fois qu'il pleut, ça part, ça va dans la nappe phréatique, tu sais, il faut le renouveler.
Voilà, ça va dans le sol, dans les racines, le machin.
C'est pas tout à fait ça c'est une mauvaise langue. je ne me permets pas de dire ça.
Non, c'est vrai, ça glisse directement vers la rivière.
Non, c'est une agriculture raisonnée qu'ils font, elle est conventionnel et tout est raisonné de sorte que on connaît le mode de dégradation de ces pesticides aussi. On a fait beaucoup de progrès également pour l'agriculture.
Bah, c'est le scientifique quand même qui s'est mis au bio. Il doit savoir un peu pourquoi, le monsieur. Quand même,
je pense
que le vin, c'est aussi un peu de chimie.
Non, je pense pas parce que. À la rigueur, je préférerais le mot biochimie que chimie, parce que biochimie, ça parle des êtres vivants qu'il y a dans le vin. Et effectivement, on dit toujours le vin est vivant, il y a beaucoup de microbiologie dans le vin. Donc, on a besoin de connaître un peu de biologie. Mais ce n'est pas parce qu'on mesure le pH ou l'acidité d'un vin. Non, il n'y en a pas.
Je regarde s'il y a un mec vivant dans mon vin.
Il y a du vivant, mais il y a des micro-organismes vivants dans le vin.
Moi, je vois beaucoup d'organismes vivants autour du vin, mais dans le vin.
Des fois, en fin de soirée, tu nous en trouver dans le verre aussi.
Donc, 2007 par rapport au 2008, oui, effectivement, lui, il est fait.
Voilà, il est beaucoup plus souple, beaucoup plus rond.
L'odeur aussi a changé énormément.
L'arôme a changé.
Il est beaucoup plus rond.
Voilà, plus rond. Et rond, soyeux.
Non. Il est rond, c'est du fronton.
Tu vas nous faire tous les jeux de mots en rond dans la soirée.
Il a lancé le truc, ça y est, c'est foutu, on démarre là. Non, je trouve que oui, il est beaucoup plus soyeux.
On va continuer de le déguster, on va le continuer d'en parler également. Après.
Avec modération.
La coupure à l'info.
Mais si le jambon sans modération, mais je l'ai pas eu, moi.
Mais alors, tiens, regarde. Oh, mais alors, ça va pas du tout.
Non, goûte ce jambon.
C'est
FM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
Retrouvez Qu'est-ce qu'on déguste avec Biosol, épicerie bio, avenue Gambetta à Montauban. Biosol, la nature chaque jour dans votre assiette.
Qu'est-ce qu'on déguste ? La prestation de Georges est toujours magnifique, vous l'aurez entendu. Fabien nous présentera dans quelques instants un bouquin héroïque fantasy. Pascal Olivier fait quelques photos qui agrémenteront cette émission lorsqu'elle sera podcastable sur le site internet qu'est-ce-qu'on-déguste.com ou sur cfmradio.fr. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ces podcasts, ça vous fait rire de nous entendre déguster chaque vendredi soir quelques bons produits de la région, et je sais que vous êtes aussi nombreux à suivre nos conseils, que ce soit les conseils qu'on donne en restauration parfois.
Oui, de dire où c'est bon et où c'est dégueulasse.
Voilà, et donc ben, on vous en remercie au passage. Tiens, notre invité ce soir, c'est Ali Mahmoudi de Château Saint-Louis, c'est du fronton.
Il est rond
depuis 91.
Un fronton parmi les bons.
Ils sont quasiment tous bons maintenant, les frontons.
Absolument.
Non, mais c'est vrai que s'appelle la fourmi, c'est particulièrement dégueulasse.
Ces 15 dernières années, les vins régionaux ont pris tous une belle ampleur. Moi, je me rappelle quand j'ai découvert le fronton en 96, je crois, c'était grâce au Bellevue-la-Forêt à l'époque. Il y avait le Bellevue-la-Forêt qui était vraiment très au-dessus de tout le monde, et puis après, il y avait les autres frontons. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure des années, tous les frontons se sont mis à peu près au diapason, quoi. Il y en a plus de mauvais, quoi. Il y a plus de... Tout le monde a atteint un niveau...
acceptable.
Oui, oui. Au pire, acceptable.
Au pire, acceptable. Et sinon, très bon, puisque, pour votre information, nous avons plusieurs vins de frontons qui sont dans le guide de Parker. C'est-à-dire, ils sont parkerisés. Donc, c'est quand même...
Parker, c'est le mec qui goûte 1520 à l'heure, c'est ça?
Je ne sais pas comment il goûte. Je ne sais pas
comment c'est la référence mondiale du vin. Ouais. C'est un Américain.
Voilà, c'est un Américain.
Et là, son nez est assuré. Dès que... Voilà. 1 ou 2 millions de dollars. Le nez assuré. Hein.
Peu importe, en tout cas, quand on a une bonne note chez Parker...
Ça se vend.
On n'a plus de vin. Le vin est fini très vite.
Ouais. D'ailleurs, où est-ce qu'on trouve le Saint-Louis?
Alors pour l'instant, étant donné que nous sommes en proximité d'ici, le Saint-Louis se trouve au château Saint-Louis, qui est une ferme. Hein. Au château, c'est une marque.
C'est une belle ferme. Hein.
C'est une ferme jolie, assez jolie, oui.
Bien restaurée.
Bien restaurée, mais c'est une ferme. Et la ferme Saint-Louis, c'est entre Comsas et la Bastide Saint-Pierre. Et les gens qui viennent jusqu'à Comsas, ils vont le trouver, les panneaux.
C'est
fâché. Les panneaux sont indiqués.
Il vient nulle part, on le trouve en restaurant, chez un caliste.
J'allais dire les... vous savez...
Si, on va le trouver chez Anne de Masterchef. Tu vas voir. L'autre jour, on a fait l'inauguration de sa ferme auberge La Paysanne, là, route du Faux, et c'était l'imamoudi qui servait le vin. Donc je me suis dit, tiens.
Attention, c'était du vin blanc, parce qu'il a une autre spécialité à part le rouge négrette. C'est un magicien du chardonnay et du sauvignon.
On va y revenir, mais.
Donc, la prochaine fois.
Donc,
est-ce qu'on va trouver quand même l'ancien blanc chez elle?
Alors, chez elle, je ne sais pas, parce que ça dépend
autrement.
On verra.
Et sinon ailleurs, chez un autre restaurateur ou...
Chez un autre restaurateur, je ne connais pas. Je ne connais pas parce que nous sommes distribués par un distributeur. Donc je ne connais pas les noms des restaurants qui l'ont.
C'est pas toi qui vends avec ton petit panier. Bonjour monsieur,
dans quel hypermolum marché Montalban, il y en a un petit peu.
Oui, il est possible dans quelques restaurants à Montalban qui y en est, mais c'est un distributeur qui le fait. Je ne connais pas les noms des restaurants. C'est dommage.
Mais par contre, on peut venir.
Dragon à la santé,
on peut venir acheter, goûter.
Santé.
On peut venir acheter, goûter à chaque
fois. C'est qu'on déguste. Voilà, la BO de Boulevard de la Mort. C'est du Jack Nietzsche, monsieur, dame. Qu'est-ce qu'on déguste?
Ça boit, hein.
Attends.
Ça va, en
fait. Et ça mange. C'est vraiment bon, ça. Ça demande une petite explication, mon cher.
Alors, c'est de la saucisse au roquefort de Châtelière. Et saucisse sèche, qui est très, très parfumée.
Archi sèche.
Tout à l'heure, on a goûté un saucisson de canard, qui était excellent. C'est la saucisse de canard, on est très parfumé aussi.
C'est marrant ça.
Par contre, j'ai pas encore goûté Le friton de canard.
Alors, moi, je te dis, le friton de canard, il est exceptionnel. Moi,
exceptionnel. Tout à fait.
Ouais.
Mmh. Et après, on va faire un battle.
Il est pas trop gras, tu vois. Il y a des vrais morceaux dedans. Et c'est comme ça que j'aime le friton, moi.
On va faire un battle de. On va faire un petit battle aussi de jambon. On a 2-3 sortes de jambon, là. De chez Monsieur
Jean. Il y a quasiment plus rien.
Bah oui, le reste est dans le sac.
Qu'est-ce qu'on boit, les gars?
Et la bouche horitelière est à la lande. Voilà. Pour information.
Putain! Non, mais c'est vrai. On est obligé de leur faire un peu de pub, et ils sont sympas avec nous. Allez. Donne-moi.
Alors, le précédent qu'on buvait, le 2007, il était médaille d'or au concours des vignerons, concours 2009 des vignerons indépendants.
Oui, c'était une des médailles, il y en a d'autres.
Est-ce que c'est, Ali Mahmoudi, sérieusement?
Là, on est à l'argent.
Est-ce que être le patron de Château Saint-Louis, c'est être avant tout un chef d'entreprise, un businessman, on pourrait être patron d'une concession de bagnole, après tout, pourquoi pas, une concession de belles bagnoles, allez. Ou est-ce que il faut vraiment s'y connaître en vin? Est-ce que vous mettez votre nez, votre goût, votre sueur dans le vin qu'on déguste ce soir? Ou est-ce que vous avez des techniciens qui s'occupent de tout ça?
D'abord, j'essaye de ne pas mettre ma sueur parce que ça ne sentirait pas bon, ça c'est sûr.
Il y avait des boulangers avant, on disait que c'est ce qui faisait le goût du pain, c'était la sueur quand ça tombait dedans.
C'est vrai, c'est vrai par contre que je suis de A à Z, c'est-à-dire je participe surtout à la vinification, puisque même si au moment de la culture de raisin, je ne participe que de loin, c'est-à-dire je ne monte pas sur le tracteur pour faire des traitements, mais c'est moi qui fais les ordonnances de traitement, suivant les conseils de mon consultant qui dit comment il faut traiter, à combien et quelle dose. C'est mon ouvrier, mon chef de culture qui le fait, mais par contre, pour la vinification, je suis 24 heures sur 24 sur le pont.
Ouais.
Et c'est moi qui vinifie.
Aussi, tu es prof d'œnologie à Toulouse?
Absolument. Alors, étant donné que je suis intervenant à la faculté d'œnologie de Toulouse, qui est à l'ENSAT, École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse, on ne peut pas.
Vous savez de quoi vous parlez, quoi.
On ne peut pas être enseignant sans le faire. Donc, il faut le faire pour pouvoir aller l'enseigner.
Quand vous dites au moment de la vinification, c'est 24-24, c'est vraiment 24-24, c'est-à-dire que ça, c'est un moment un peu délicat, c'est un moment.
Ouais. Oui, un jour, un journaliste m'a demandé qu'est-ce que vous sentez, comment vous sentez, vous, la période approche, les vendanges et tout ça. J'ai dit, c'est exactement comme quelqu'un qui va accoucher, une femme.
Ouais, alors nous on sait tous très bien ce que c'est, hein, une femme de...
Moi non. Mais justement, un médecin qui est au chevet d'une femme qui veut que la naissance se passe bien, c'est exactement pareil, c'est-à-dire beaucoup d'angoisse, beaucoup d'incertitude parce qu'à cause du temps. Parce que le temps est primordial, il faut pas qu'il pleuve, il faut qu'il fasse pas trop chaud. Comme cette année, par exemple, juste 2 semaines avant les vendanges, il a fait, je ne sais pas, 38 degrés pendant 4 jours. Et ça a grillé pratiquement 10% des raisins. Et ça, c'est pas très bon après. Donc, ça a diminué la récolte.
La vinification, ça dure combien de temps? C'est un processus qui prend combien de temps?
Alors la vinification consiste commence à partir du moment où on ramasse le raisin. Quand on ramasse le raisin, ça y est, la vinification a commencé. Alors pour un vin blanc, par exemple, quand on ramasse le raisin, on presse. Une fois qu'on a pressé, on a le jus de raisin. Mais le jus de raisin, il faut le traiter physiquement, pas chimiquement, physiquement. Mmh. C'est-à-dire, il faut le refroidir, il faut prendre le clarifier, il faut le soutirer, il faut le regarder. Tout ça, ça peut prendre 15 jours. Pendant 15 jours. On travaille avec le jus de raisin à 6 degrés avant que ça fermente, parce que si on le laisse monter en température, la fermentation est spontanée et naturelle. On arrête la fermentation, on stoppe, on retarde la fermentation avec la température basse. Et une fois que la fermentation est commencée, on contrôle la température pour que la réaction exothermique à la fermentation ne monte pas la température.
C'est un truc de chimiste, quoi.
Mais
on a l'impression, on dit, tiens, les vignerons, on imagine. Imagine le mec à l'époque, mais en fait, c'est vraiment un truc. Votre blouse blanche dans votre laboratoire avec votre pipette.
Je suis avec ma blouse blanche pendant.
Elle est pas très blanche, elle est
Oui, parce qu'elle est un peu rosée. Il y a un peu de vin dessus.
Ouais.
Mais effectivement, j'ai ma blouse blanche. Et parce que si je parle comme ça, c'est parce que ce sont des termes utilisés en œnologie. Mais effectivement, les vignerons qui n'ont pas fait d'œnologie, qui ne sont pas diplômés, alors ils peuvent utiliser d'autres mots. Mais ça veut dire la même chose.
Est-ce qu'on doit être interventionniste alors quand on fait du vin?
Alors, on va y revenir. On a le temps de discuter avec Ali Mamoudi.
Ça passe vite, il a tellement de choses à dire. Et puis il est bavard aussi. Hein.
Bah oui, mais bon, en même temps.
Je me demande qui est bavard là.
Dis-nous quel est le vin qu'on boit, s'il te plaît, Pascal.
Eh bien, on est toujours dans notre verticale, donc Château Saint-Louis, l'esprit, et là on est au 2005. Donc 2005, normalement, grande année.
On a raté un 2006 là.
Qu'est-ce qu'on n'a pas fait.
Voilà.
Pas assez bon, pas assez de différence, pas de 2006.
Exactement. Parce que 2006, nous n'avons pas trouvé suffisamment
de différence. Et là, tout le monde croit que j'écoute pas alors que j'écoute. Mais je pense à ceux qui ont pris l'émission en marche, monsieur. Et donc je redis que nous faisons ce soir une dégustation verticale de Château Mamoudi. De Château Saint-Louis, chez monsieur Mamoudi.
Toi, tu vas finir en dégustation horizontale si ça continue.
Ça ne va pas du tout. Sachez, messieurs, dames, qu'on fait toujours tout ça avec
beaucoup
de modération.
Oui, beaucoup, beaucoup.
Il est l'heure de vous conseiller, si vous le voulez bien, un ouvrage, un livre, un truc où on tourne des pages. Ouais, si, ça existe encore. On n'est pas tous à lire des trucs encore sur nos iPhones. Pas encore, ça ne serait tardé. Mais pour le moment, vous pouvez tous prendre un bouquin d'Heroic Fantasy, celui que vous propose par exemple Fabien.
Donc ce soir, je vais vous parler d'un livre de Philippe Tessier. Philippe Tessier, je vous en ai déjà parlé, c'est l'auteur qui fait la série Polaris, donc science-fiction futuriste sous les mers. Et toujours chez Black Book Edition, il a sorti un livre complètement différent, plus orienté Heroic Fantasy, qui s'appelle Tyrdel. Donc Tyrdel, c'est l'histoire d'une créature de bois, donc c'est pas une marionnette animée par magie, c'est vraiment un être vivant qui a une âme, un esprit, mais qui a été fait par un magicien, mais qui, son corps est en bois. Et on retrouve un petit peu les grands thèmes de l'Heroic Fantasy, on pourrait dire le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire qu'il se retrouve séparé de son créateur, il se retrouve à parcourir tout le monde pour une quête qu'il ne comprend pas encore, et c'est vraiment son parcours du monde, donc il rencontre évidemment tous ceux qui vont devenir ses compagnons, donc un loup, où au fur et à mesure on découvre que c'est un loup aussi approché du dieu des loups, il va découvrir une fée, il se fait accompagner par une tueuse qui a le pouvoir de manipuler les ombres. Il y a des magiciens qui sont à la fois là pour l'arrêter, mais qui ont besoin de l'aider. Enfin,
ça sert à quoi, le pouvoir de manipuler les ombres?
Pouvoir être invisible, pouvoir voler, pouvoir marcher sur les étoiles. Et il comprend vite la petite créature de bois, donc Tyrdel, qui est vraiment au centre d'un gros conflit, puisque c'est la guerre entre les hommes qui ont asservi les dieux à l'époque, les élémentaires, donc les élémentaires du feu, de la terre, de l'eau, de l'air, qui essayent de résister aux hommes, mais qui en même temps voudraient s'allier à eux pour contrer les dieux. Donc voilà, c'est vraiment de l'Heroic Fantasy avec tout ce qu'on retrouve d'habitude. Ce qui est vraiment sympa dans ce roman, alors premièrement, Philippe Tessier a extrêmement travaillé la géographie. Il y a une carte du monde très précise. Quand les héros parcourent le monde, on a vraiment des paysages différents, comme on pourrait trouver sur la planète Terre, avec des hauts plateaux, des montagnes, des plaines. Une vraie géographie travaillée avec des interactions de la politique entre les différents lieux, de la politique entre les différents clans, il y a beaucoup d'écologie, l'impact des guerres ou des hommes sur l'écologie, donc c'est un monde très très travaillé. Il y a un gros message écologique dans le livre, puisqu'on voit bien la présence de l'homme avec la pollution, les guerres, l'extermination des races animales. Et en même temps, le livre est écrit avec un vocabulaire, alors pas simpliste, mais simple, clair, qui fait que même s'il s'adresse à des adultes, vous pourriez le faire lire à vos enfants à partir de, on va dire, 11 ans, 12 ans. C'est une très très belle histoire. Contrairement au Seigneur des Anneaux, qui est très beau, mais qui est très compliqué, il faut quand même une certaine base en lecture pour le suivre. Là, il est vraiment accessible à partir de 11, 12 ans. Il est tout aussi joli. C'est le premier tome. Il y aura des suites qui vont arriver. Un très 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 bon roman, donc à lire pour tout le monde, adulte comme enfant. Pas de scène violente, vulgaire, du condensé. Et ça s'appelle Tyrdel, de Philippe Tessier, aux éditions Black Book Edition.
C'est qu'est-ce qu'on déguste. Qu'est-ce que tu dis?
Je dis que le 2005 met un petit peu de temps à s'ouvrir, c'est-à-dire que quand on l'a versé dans le vin, dans le verre, bah, écoute, il met un petit moment à s'exprimer.
Encore l'aérer. Encore faudrait-il le verser dans le verre.
Parce qu'il n'en a pas. Il n'en a pas, effectivement. Oui, mais vous lui donnez pas le temps.
Non, mais arrête de faire des doses pareilles aussi. On a dit avec modération.
Mais oui,
le truc est super large.
T'es pas obligé de se boire d'un seul coup.
Ah bon?
Faire durer le plaisir. Donc 2005, c'était quoi comme année, année
C'était une très bonne année, parce que c'était une très bonne année 2005. Et en plus, si vous regardez derrière sur la contre-étiquette, chaque bouteille a un numéro et la totalité des bouteilles est notée aussi. C'est-à-dire
10642. On boit la 10642 sur 14 000 voilà. bouteilles.
C'est le plus grand nombre de l'esprit de Saint-Louis que j'ai fait depuis la création de cette cuvée. 14. C'est 14 000 bouteilles, c'est beaucoup, parce que c'était en 2005, parce qu'il y avait beaucoup de barriques qui méritaient d'être avec l'esprit.
Le 2007, on avait 4350 bouteilles. Et voilà. 4350 et
pas une de plus, non. Tout
que
à fait.
4350.
Que 4350.
Et là, 14 000. 4009 pour 2004.
Donc c'est le vin, c'est votre chouchou, quoi. C'est le vin.
C'est la cuvée supérieure, effectivement.
Voilà, c'est la domaine.
Tête de domaine.
Ouais, mais c'est
le vin qualité de chez Château Salé.
La vendange tardive aussi.
Ah oui, mais ça c'est en blanc. Mais alors, en rouge,
non,
effectivement,
mais alors,
en rouge.
Je voulais savoir là, vite fait, toute la gamme du Château Saint-Louis, s'il vous plaît, monsieur Mamouti.
Alors, toute la gamme, il y a le rouge, en deux cuvées, une cuvée classique, cuvée l'esprit. Après, nous avons en blanc. En blanc, nous avons méthode champenoise ou méthode classique, traditionnelle,
avec des bulles,
donc un vin FMS1 qui s'appelle le préambule, en trois mots, préambule.
C'est marrant, vous dites méthode champenoise alors que vous n'avez pas le droit de le dire.
On n'a pas le droit de l'écrire, mais je peux juste vous le dire.
La radio étant
la radio n'étant pas écrite,
oral,
donc je peux le dire parce que ça parle tout de suite aux gens de quoi il s'agit.
Sinon, vous appelez ça méthode traditionnelle.
Méthode traditionnelle, exactement. Donc il est effervescent et méthode traditionnelle, c'est-à-dire c'est le gaz naturel de la fermentation secondaire qui est resté dans la bouteille et qui fait que le vin devient effervescent, mon petit gars.
Ah là, je peux m'adresser deux secondes aux scientifiques. Non, mais c'est vrai.
Je sens
pourquoi
qu'il
ça fait des bulles.
Non,
pas du tout. Pourquoi ça fait des bulles?
Ah, oh, comment ça se fait des bulles? Des bulles, c'est tout simplement le gaz carbonique qui sort du liquide.
Et comme il ne veut pas sortir, il y a un bouchon et il reste emprisonné dans la bouteille.
Voilà, il a compris.
Au lieu d'arrêter la fermentation, on l'a laissé dans la bouteille.
Je le vois, moi, monsieur.
Je
ne réfléchis pas.
Oui, mais enfin, il y a aussi d'autres boissons qui contiennent le gaz carbonique.
Le Coca-Cola.
Je voulais pas nommer.
Ben,
alors, il faut pas nommer. Non, il y a des boissons non alcoolisées qui ont aussi des bulles, mais tout simplement parce qu'on a injecté artificiellement du gaz carbonique dedans et on l'a refermé tout de suite. Donc, tandis que là, c'est un gaz qui a été.
C'est-à-dire que le gaz carbonique se trouve quelque part sous pression dans le liquide.
Absolument,
c'est
dans la bouteille. Dans la bouteille, parce que toute fermentation dégage du gaz carbonique. C'est-à-dire quand le sucre, la saccharose, se transforme avec les levures, se transforme en alcool, si vous voulez, ça donne l'alcool, l'éthanol, C2H5OH, la formule, plus CO2, c'est-à-dire le gaz carbonique.
Il y a une émission très bonne sur France Inter qui s'appelle CO2 mon amour.
Voilà,
c'est la parenthèse.
Voilà. Emmerde à faire une pub
pour une radio concurrente.
Ah,
une petite radio que personne ne connaît et personne n'écoute en plus.
Donc, CO2.
Comment
CO2,
voulez-vous que je tienne la ligne de la pensée
alors qu'on te fout le bordel?
Quand il y a 4 personnes qui ont 4 verres dans le nez qui veulent me parler.
Non, mais moi, c'est ma spécialité de parler sur les autres. Donc, si tu veux, il faut le savoir. C'est comme ça.
Moi, je perds absolument mes moyens et j'ai besoin de Rémi qui me repose.
On était au préambule, donc il y a le préambule.
Non, non, mais c'est.
Et après, il y a quoi?
J'ai eu à peu près la réponse à ma question pourquoi il y avait le gaz carbonique. Oui. Ok. Donc, effectivement, on revient à la gamme.
Alors, après, donc, nous avons préambule qui est une marque déposée par Saint-Louis, qui appartient à Saint-Louis. Si vous voyez d'autres préambules, c'est des faux.
Alors, on a bu ici du rocambule.
Non, mais ça non. Mais
Château préambule, Roc, c'est votre voisin.
Oui, c'est mon ami, hein, bien sûr. Monsieur Freddy Grib, c'est
Jean-Luc Grib.
Non, c'est Frédéric qui est notre président du syndicat aussi.
Ah, oui,
c'est son frère. Voilà.
Jean-Luc, c'est Mammouth qu'on a reçu ici.
Oui.
Revenons aux moutons. Alors après, il y a du préambule. Après, il y a quoi?
Après préambule, il y a aussi le vin blanc, chardonnay blanc, qui est en vendange tardif.
Mais pourquoi du chardonnay? C'est pas je dis si ça.
Et voilà l'idée reçue. C'est la même chose qu'on m'a dit quand je suis allé voir
ça vient du Bourgogne.
La douane en disant « Je veux planter du chardonnay ». On m'a dit que c'était interdit. Et quand j'ai dit pourquoi, on m'a dit exactement cette phrase, le Chardonnay n'est pas un cépage d'ici, c'est un cépage de Bourgogne. Et à ce moment-là, j'avais envie de planter ce raisin, parce que ce raisin, le vin se vendait très bien. Et j'aimais oui. beaucoup ce vin. Chaque fois que j'ai bu du Chardonnay, j'avais un beau souvenir. Alors je disais, pourquoi planter autre chose que je n'aime pas? Je veux planter du Chardonnay. Et finalement, j'ai demandé, montrez-moi le décret d'application, s'il vous plaît. Elle dit, c'est pas grave, je viens de le recevoir il y a 15 jours, je vous le montre. Et quand il m'a montré le décret d'application, c'était un cépage recommandé. J'ai dit, alors j'ai des subventions? Oui, monsieur, vous avez des subventions aussi. Donc j'ai planté 5 hectares de Chardonnay, qui fait quand même la jalousie de beaucoup de voisins.
Tu vas planter
tout
aussi.
Ça pour avoir des subventions.
C'est-à-dire qu'il y a des cépages.
Ils bouffent la subvention. Mais non, mais ils vivent à la subvention, les agriculteurs, c'est bien connu.
Des mensonges.
On peut avoir des cépages qui vont être interdits sur certaines régions. C'est-à-dire que...
On va y revenir. On garde la question derrière l'oreille d'Ali Mahmoudi.
Oui.
Et nous, on va se goinfrer de jambon pendant ce temps. Attends.
Non, attends. Alors, on a fait. Alors, 2005, on descend dans le.
On va descendre ?
On descend une marche.
Allez, attends, on descend une marche pendant le jazz.
Bon, aujourd'hui, c'est pas tout à fait du jazz, mais c'est un.
Si je remets du jazz. En fait.
Oui. Le mec, de moins à moins.
Le mec, il fait une chronique de jazz. Il ne nous emmène jamais un morceau de jazz.
Bon, en même temps,
c'est lui qui joue.
En même temps, est-ce qu'on s'appelle là?
En même temps, oui.
Des fois, c'est un peu d'obard quand même. Hein. Je veux pas vas-y, dire, bon, mais.
À l'honneur, à notre invité, j'ai choisi. CD qui s'appelle Méditerranée. Il a été fait par Renaud Garcia Fosse, qui à l'origine est quand même un contrebassiste jazz, parce qu'il a il a joué dans quand même l'ONJ, il a débuté l'Orchestre National de Jazz de Claude Barthélémy. Il a joué avec Roger Guérin quand il a débuté la contrebasse, mais c'est avant tout un musicien classique. Il a fait quand même le Conservatoire de Paris avec François Rabat comme responsable prof de contrebasse. Bon, c'est quand même une pointure en contrebasse. Et Renaud Garcia Fosse, qui est originaire de Perpignan, qui a des parents catalans, italiens, fait le tour de la Méditerranée avec différentes musiques. Et là, j'ai choisi un morceau qui serait tout à fait une ambiance désert. Là, on a une caravane. Vous fermez les yeux, vous avez une caravane qui marche dans le sable. Et ce morceau correspond tout à fait à cet esprit.
Santé.
Oui,
c'est bon, moi je l'ai.
Oui, mais marche au même rythme. Tiens, quoi, toi.
Demi-quatre.
Non, c'est le.
Moi, je suis pas de.
Non,
j'y arrive. Attends. Fais à quoi, là? Attends, Jean.
Mais je pense qu'on est tous. Tu finis ton verre, on est tous à la même année.
Le morceau s'appelle Mythologie, il y a des petits relents d'Orient. C'est interprété par Renaud Garcia Fons dans son dernier disque qui s'appelle Méditerranée. Il faut dire qu'en 2010, il a eu le prix Echo Deutscher Musik. Bon, c'est en allemand, je ne sais pas trop le prononcer. Deutscher Musik. Donc, Renaud Garcia Fons a eu plusieurs prix pour son instrument, il le maîtrise bien. Il joue sur une contrebasse à 5 cordes, ce qui est assez rare. Et il a un son quand il joue de l'archet comme un violoncelle.
Qu'est-ce qu'on déguste ? La suite dans quelques minutes. Autour de la table, quelques bonnes bouteilles qui ont parfois pris une sacrée descente.
Allons avec modération.
Ali Mahmoudi de Château Saint-Louis, Fabien, Georges, Pascal, Aurélien et Thomanette. Et votre serviteur, on vous retrouve dans 5 minutes.
CFM. CFM.
Retrouvez Qu'est-ce qu'on déguste ? Avec Biosol, épicerie bio, avenue Gambetta à Montauban. Biosol, la nature chaque jour dans votre assiette.
Bonjour, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on déguste ?
Maïté de temps en temps, ou son esprit tout au moins, vient nous rendre visite dans cette émission. Qu'est-ce qu'on déguste ? La suite avec autour de la table Georges Bonfils, vous venez de l'entendre encore une fois dans ces...
Oui, j'ai débouché une bouteille de Château Saint-Louis.
Quelle année ?
Alors là, c'est le dernier millésime que nous a mené M. Mahmoudi, c'est le 2003.
Voilà, donc pour ceux qui prendraient le train en marche, nous faisons ce soir une dégustation verticale du Château Saint-Louis.
L'esprit.
L'esprit que nous a apporté son...
Géniteur, concepteur, ange tutélaire,
avec qui on
magicien.
Discute déjà depuis plus d'une heure maintenant, qui s'appelle Ali Mahmoudi, avec Pascal Olivier, avec Georges Bonfils, avec Fabien Martinet, avec Aurélien aux manettes, et je dois dire que ça va plutôt pas mal. Mais alors, ce qui est étonnant dans ce vin qu'on déguste ce soir avec des charcuteries de chez Telière et de chez
Monsieur Chevard,
merci. Et il va falloir arrêter quoi de faire de la promo pour tout le monde, parce que sinon on fait une page de pub tout le temps, quoi. C'est un peu insupportable.
Mais quand c'est bon, c'est bon, et les gens, quand c'est bon,
ils
font plaisir. La pub, c'est quand c'est de la merde, et faire de la pub, ça va pas. Par contre, quand c'est bon et dire que c'est bon, je trouve que c'est tout à fait normal.
C'est vrai. Et donc, disais-je.
Ah, j'ai chopé un coup de sang là.
Musique. Santé. Cheers.
Encore me casser les verres.
Ah oui, ça y est, je sais ce que je voulais dire. C'est que dans cette dégustation verticale, il n'y a pas un vin qui ressemble à l'autre.
Herbacées même, je dirais. Herbacées même. Ce sont des ça peut être des odeurs de l'air coupé même, à la rigueur, avec des fleurs mélangées. C'est ça qu'on sent. Et c'est un 2003. 2003, l'année de sécheresse. Vous vous rappelez, 2003, combien il a fait chaud ? Il a fait excessivement chaud. Ah ben on est non plus, on est, il n'a rien à voir. Il est d'accord avec moi. Hein. Ah non, le nez est parfaitement différent. Non, mais franchement.
Le puissant, le nez.
Ah oui.
Ça, ça envoie le bois, ça a quand même 40 ans bien siphonné. Les Kinks, You Really Got Me, ça, oui, ça a 40 ans, on a
ça
cherché.
Ça a 40 ans, oui, ça doit être des années 66-67, et comme disait Philippe, la manœuvre, ça envoie
le bois. Non, non, c'est encore du rock, ça c'est du truc, les
c'est
Kinks.
C'est du rock fort, les Kinks.
Ouais.
Le petit mot là de George.
Roquefort.
Comme la saucisse roquefort quoi.
Qu'on est en train de déguster. Alors on fait ça avec donc Ali Mahmoudi du Château Saint-Louis. On en est au 2003.
Non, je finissais avant la truc. Non. La gamme, on avait passé les rouges, les blancs.
Et oui. Il fait.
Et est-ce que
du rosé aussi, du rosé bien sûr.
Et du blanc doux aussi, vendage tardif.
Parce que c'est obligatoire de faire du rosé aujourd'hui.
Non, c'est non, pas mais... obligatoire, mais en Fronton, appellation d'origine Fronton, on a le droit de faire du rouge et du blanc. Du rosé, pardon. Du rosé et du blanc. Donc, étant donné qu'on
non,
a
du rosé et du rouge. Rosé
et du rosé et du rouge. Oh là là.
Soit ton affaire.
La dégustation est avancée.
Supprimez-moi les verres, c'est pas possible.
Donc en Fronton, on peut faire du rouge et du rosé.
En appellation Fronton.
En appellation Fronton. Donc, on nous demande du rosé Fronton. Donc, on est obligé d'en faire un peu, bien oui. sûr. Et mais il y en a qui font beaucoup.
Vous faites du rosé parce qu'on vous demande et c'est obligé ou vous faites du bon? Parce qu'aujourd'hui, on trouve tout en rosé. Il y a le rosé, oui. vraiment, histoire de dire c'est du rosé, et même sur le barbecue, il passe.
Tu sais ce qu'il va dire? Il va dire non, bon je rosé. Dis rosé de la merde.
Non, mais bien sûr, mais ça peut être une vraie passion.
J'ai rien dit encore, mais on me laisse pas parler.
Voilà. Donc, bon, monsieur Elkaba, tais-toi, Rémi. Et voilà, je vous laisse répondre.
Moi, je n'ai jamais vu un monsieur Elkaba aussi, avec autant de paroles qui me coupent la parole. Je ne peux pas parler, je perds le fil de ma pensée, je ne peux pas raisonner dans ma tête. Et si c'était dans une classe universitaire, j'aurais foutu tout le monde dehors. C'est
mais
pas
si
possible.
C'était à la radio, qu'est-ce qu'on déguste
si,
alors
mais moi, si, c'est si, pas c'est chez nous.
C'est voilà. le bordel. Mais si, c'est le bordel.
C'est toi l'élève.
Mais oui, mais je suis à votre service. Et
laissez-le
vraiment prisonnier. Alors je ne sais plus à quelle question répondre et comment, parce qu'on me fait les questions et les réponses
on
en même temps.
Du rosé.
Non, le rosé, la gamme de rosé. Est-ce que c'est des rosés aussi où vous mettez votre cœur et des bons rosés, ou est-ce que c'est un rosé parce qu'il y a la demande? Et Rémi, arrête de rire, laisse-le répondre. C'est lui.
Rémi,
c'est
Rémi.
Pas possible.
Ah, c'est pas possible. On fait aussi le rosé avec beaucoup de sueur, beaucoup de plaisir, beaucoup de passion, beaucoup de. Mais c'est vrai qu'entre nous, soit dit.
On est qu'entre nous là, on s'en fout.
Le rosé, ce n'est pas toujours aussi bon que ce que je souhaite.
Ouais.
Bien sûr.
Quoique la négrette se prête au rosé, et souvent le rosé de Fronton est considéré comme le meilleur rosé du monde dans les dégustations. Ça arrive quelques années, et souvent ils sont bien meilleurs que les rosés de Provence, à des prix nettement inférieurs.
Est-ce que c'est toi qui avais fait le rosé, qui avait eu la Coupe du Monde, qui était le meilleur rosé du monde?
Là, tu te moques de moi, mais c'est pas grave, mais tu sais très bien que c'était pas moi.
Je sais pas, tu me l'as jamais dit. Non, tu sais qui c'est, tu as jamais voulu.
Je peux le dire.
Il peut le dire.
C'était la coopérative de Fronton.
C'était mon ami Jean-Pierre. Jean-Pierre qui le faisait, qui a pris la retraite, il n'est plus là, pour travailler. Il est là maintenant pour se reposer. Donc,
et l'an dernier, c'est le Château Montoriol qui a eu le.
Et l'an dernier, c'était Château Montoriol.
Qui a été le meilleur rosé du monde.
Qui a eu le meilleur rosé du monde. Mais enfin, le meilleur rosé du monde, mes amis, ça veut dire tout simplement, parmi les rosés qui ont été dégustés, il a été le meilleur. Donc, c'est déjà.
C'est bien pour l'appellation.
C'est beaucoup pour l'appellation, parce qu'il y a beaucoup de rosés qui sont dégustés. Et quand on connaît la notoriété des rosés de Provence,
oui,
et quand on voit que le rosé de Fronton, il arrive devant les rosés de Provence, ben, ma foi, on est un peu fiers. Mais j'espère que ça va continuer aussi pour le rouge, pour pouvoir les vendre. Il y a des propriétaires qui font quand même 60 à 70% en rosé. Mmh. Donc s'ils font 70% de leur production en rosé, c'est parce qu'ils ont la vente de rosé. Et ils font des rosés extraordinairement bons. Mais personnellement, vous savez, vous voulez que je vous dise comment on appelle entre œnologues les rosés, le rosé?
Oui.
Ouais. Le rosé, vous savez comment on fait le rosé, hein? On laisse
ouais, du rouge et du blanc, on mélange.
Voilà, c'est que vous n'avez rien compris, les élèves. Alors, pour faire du rouge, on met le raisin avec son jus dans la cuve, on attend que la couleur diffuse de la peau de raisin sur dans le jus de raisin jusqu'à ce que ça devienne rouge, puisque le jus de raisin est blanc. Et la couleur vient uniquement de la pellicule de raisin. Et de sorte que si on prend le jus et on presse, le jus est blanc.
Donc on pèle le raisin.
On ne pèle pas, on pèle dedans. Alors, Pour le rosé, quand on met le raisin dans la cuve, on n'attend pas beaucoup. C'est-à-dire, à peine on a mis les raisins dans la cuve, maximum 12 heures. C'est pour ça qu'on appelle parfois des rosés d'une nuit. C'est un rosé de saignée. Et on le retire. Donc, ce retrait de jus de raisin avant que la couleur arrive.
Coitus interrompus.
Voilà.
En fait, c'est un blanc
parce que je l'avais déjà dit. Donc, le rosé, ou c'est un blanc loupé, ou c'est un rouge loupé, enfin, peu importe. Mais on peut l'appeler comme on veut. Mais en attendant, c'est le goût qui compte. C'est celui qui le boit, qui doit avoir le plaisir. C'est tout ce qui compte. Mais c'est vrai que entre œnologues, on appelle ça coitus interrompus, puisque
il est coupé.
Et on retire avant même que l'effet de coloration de jus se fasse. Voilà.
Ouais, mais parce que c'est quand même vachement bien l'été au barbecue de pouvoir s'envoyer un petit rosé avec, avec des glaçons.
Quand on s'envoie blanc, c'est encore mieux. Mais non, je ne suis absolument pas contre les glaçons. Je suis absolument pour la façon que vous aimez boire, avec des glaçons, sans glaçons, avec de l'eau, sans eau.
Pourvu
que vous buviez tous les jours.
Vous achetiez mon vin. Buvez 10 litres tous les jours.
Régulièrement. Régulièrement.
Vous savez, quand on prépare cette émission, entre toute l'équipe de Qu'est-ce qu'on déguste, que ceux qui sont là et que ceux qui sont pas là, parce que en fait, on prépare ça...
Ceux qui sont pas là, c'est des victimes.
Par mail, et tout le monde s'envoie des mails tout au long de la semaine, il y a au moins 250 mails qui passent.
Ça dépend les sujets.
Dès lundi matin, je savais que vous alliez connaître ce soir une recette assez exceptionnelle de l'invention... de celui qui va vous la donner maintenant.
Bien que Patrick Combalbert ait dit « Je l'ai vu à la télé », c'est pas vrai, il a vu une soupe de lentilles.
Je vous recommande vivement, amis auditeurs et trices, de prendre dorénavant et dès maintenant un petit stylo, un petit calepin, parce que là, ce qu'il va vous donner, c'est de la lentille, du foie gras, tu fous dans une casserole, du secours.
Pas ça.
Dans un shaker.
Et CFM décline toute responsabilité en cas d'empoisonnement des auditeurs.
Pas du tout. Donc, ceux qui ont mangé ça dimanche chez moi, ils s'en sont pour lécher les babines.
Mais je suis jamais invité, j'en ai marre.
Tu étais pas là. Oh, remarque, tu étais pas invité, c'est vrai. Non mais attends, j'essaie d'empoisonner les autres et puis après, si ça marche. Pas,
alors, une recette, si
vous voulez. Vous inviter prochainement alors.
On peut faire. La recette est au point et c'est vrai que j'ai fait ça sur un coup d'instinct comme ça, etc. Et ça a bien marché. Je vous la joue Masterchef. Il a horreur de cette émission. Mais c'est fini, Rémi, remets-toi.
J'aime beaucoup la petite qui a gagné parce que j'étais chez elle l'autre soir, elle est très sympa. Mais franchement, l'émission, on en reparlera.
On en a déjà parlé, tu n'étais pas là. On en a profité que tu ne sois pas là pour en parler.
Vous avez bien fait parce que j'aime pas ça.
Ce soir, je vous fais des lentilles crémeuses au foie gras, comme un risotto. Pour 4 personnes, il nous faut 500 grammes de lentilles. Un morceau gros comme le poing de foie gras frais. Du sel et du poivre du moulin, 4 petits morceaux de gingembre frais, un pot de 250 g de crème fraîche ou de crème fleurette, un oignon, une carotte, un verre de vin blanc sec et du bouillon de poule. Donc, qu'est-ce qu'on prend comme lentilles? Ben, on peut faire avec toutes sortes de lentilles. Lentilles corail, on en trouve des bio chez notre partenaire Biosol. Moi, c'est là où je les achetais parce que c'est là où on les trouve et j'en trouve pas ailleurs. On peut faire ça avec des lentilles vertes du puits, des blondes de Saint-Flour. Moi, j'ai fait ça avec des lentilles que j'achète sur le marché des producteurs du samedi. Il y a un gars qui fait ça et elles sont très très bonnes, ces lentilles. Il n'y a pas de cailloux, il n'y a rien. Les lentilles, ça ne se lave plus. Il y a des trieuses à lentilles qui sont géniales. Donc, ça sort vachement bien. Il n'y a plus de terre, il n'y a plus de lentilles. On fait comment? Dans une sauteuse, on fait revenir dans du beurre, un oignon et une carotte coupées en mirepoix. Mirepoix, c'est en petits morceaux, tout petits. On rajoute les lentilles, on les fait revenir 5 minutes. Donc on les nacre un petit peu comme on fait comme on fait un risotto. On mouille avec un verre de vin blanc. On rajoute petit à petit du bouillon de poule qu'on a préparé à part et qu'on tient bouillant, donc avec une louche.
Bouillon de poule, c'est le cube, quoi.
Oui, moi je fais ça avec un bouillon de cube bio que j'achète aussi.
Chez Biosol.
Chez qui vous savez. On va pas lui faire trop de pub.
Non,
là,
mais on s'en fout, c'est notre partenaire. Lui, on peut.
Il casque.
Ben, lui, il donne. Je ne vais pas dire que les autres ne donnent pas.
Je rajoute petit à petit du bouillon de poule que j'ai préparé à part et que je tiens bouillant. Donc il y a une petite louche, je touille, je mets et chaque fois que ça boit, j'en rajoute, etc. Il faut compter à peu près 30 minutes de cuisson. À mi-cuisson, j'ai coupé mon foie gras.
À mi-cuisson, frais. Bonjour.
Oui, merci Georges. À mi-cuisson, c'est-à-dire au bout de 15 minutes, j'ai coupé mon foie gras en dés et je le jette dans mes lentilles. Lorsque c'est cuit, c'est-à-dire au bout des 30 minutes de cuisson, à peu près, vous goûtez, je réserve environ un quart des lentilles que je mets à part avec une écumoire, je les réserve dans un ravier. Je mixe ensuite toute ma masse, toutes mes lentilles, je les mixe avec de la crème. Hein, le pot de 250 g de crème fraîche ou de la crème fleurette. Je goûte, je rectifie l'assaisonnement s'il faut et je rajoute les lentilles réservées. Donc on a une crème de lentilles mixée avec des lentilles entières dedans. Et on remue tendrement et on sert aussitôt. On peut aussi s'amuser à parsemer ça avec un petit peu de piment d'Espelette ou choses comme ça. C'est vraiment très bon. Il y a vraiment un bon goût de foie gras. Il y a tous les bienfaits de la lentille avec plein de vitamines, plein de fer.
Tu sers ça en entrée ou...
Non, en accompagnement d'un plat. On peut s'amuser à faire. On peut le servir en entrée dans des verrines à l'apéro. Ou on peut le servir avec un plat.
Avec du 2003.
Avec du 2003, avec du vin rouge, ça va très très bien.
Alors il faut se servir du 2003. Attends, tiens. Monsieur Dan, non, le 2003 tu l'as pas goûté, il y a que moi qui suis servi.
Non, mais tout s'était servi, tout le monde en
toi,
a pris.
Toi t'étais en retard de millésime.
Mais t'étais pas avec modération.
Alors le 2003, année
rien.
Sécheresse.
Je ne comprends rien à cette dégustation verticale qui part en oblique. Je ne comprends rien.
En oblique. Non, le 2003 est particulièrement bon, il est fabuleux.
Pour moi, 2007, de loin devant. 2003 qui le quand même le talonne un petit peu.
Ah, moi je préfère encore le 2003. L'odeur, enfin les arômes, le nez, le non, il
le est... Le nez est beaucoup plus complet que le 2007.
C'est complexe, c'est pas complexe, ouais. C'est complexe.
Complexe.
C'est très complexe parce que c'est vrai qu'il y a des fleurs, il y a...
On sent la sécheresse quand même, il y a un peu de cailloux quand même, il y a de l'été là-dedans.
Allez, vous venez d'arriver, vous vous demandez ce qu'on fait, c'est l'émission Qu'est-ce qu'on déguste. On boit du Château Saint-Louis, enfin on déguste du Château Saint-Louis en compagnie de son patron, Ali Mahmoudi qui est avec nous là, et maintenant il s'apprête à nous dire ce qu'il a dans son frigo, Ali Mahmoudi. Oui, parce que...
Ali Mahmoudi, vous avez toujours quoi dans votre frigo?
Il croyait qu'on allait le cuisiner que sur son pinard, mais non. On veut savoir aussi ce qui traîne au fond du frigo. Par exemple, qu'est-ce qui traîne depuis très longtemps au fond du frigo, à droite ou à gauche, là, le truc qui traîne là. Il y a un truc au fond du frigo, il y a toujours une boîte
on
de...
On débarque ce soir à l'improviste, bocal, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo?
Un bocal de moutarde ou un truc comme ça, il renverse tout en plus.
C'est une question très embarrassante puisque c'est ma femme qui s'occupe de le frigo, alors...
Mais le frigo de ton bureau...
Ah, c'est vrai que au fond du frigo, je mets des fruits exotiques que j'ai amenés de Téhéran.
Des raisins.
Il y a des raisins dans le congélateur. Il y a un raisin sans pépins que j'ai produit, que j'ai dans le congélateur pour faire des foie gras aux raisins sans pépins. C'est très bon. Et
dans les murs.
Et avec le riz, bien sûr, le riz blanc que je fais.
Moi, ça se fait qu'ils connaissent mieux que parce vous.
Que je...
Non,
en fait,
non, parce que je... tout le monde est invité partout, sauf toi.
Parce que je suis le mal aimé. Je suis le mal aimé.
Avec Ali, on se connaît depuis 30 ans.
Voilà, exactement.
Nous avons travaillé ensemble.
Attention, les amis de 30 ans, on sait ce que ça a donné.
On a vu des fois, ça se tend quand même sur la fin.
La dernière fois que vous avez cuisiné, Ali Mahmoudi.
Pour séduire. Ouais. La dernière fois que vous avez cuisiné pour séduire.
Ah, il y a longtemps, c'était.
Mais c'était quoi?
Après, c'était bien sûr du riz aux bijoux.
Du riz aux bijoux.
Voilà, je voulais lui faire dire ça.
Le riz aux bijoux, c'est un riz blanc qu'on fait avec en ajoutant des épices aromatiques comme le safran et en même temps des pistaches, des amandes, des raisins secs de deux couleurs différentes et en même temps des épinouinettes qui est acide, qui relève un peu le goût et ça fait acidulé, sucré et c'est très très bon quand on le mange avec un magret de canard bien grillé, saignant.
Et c'est surtout la façon de faire cuire le riz parce que tout le monde ne connaît pas la façon iranienne de faire cuire le riz.
Absolument, c'est vrai que la façon iranienne de faire le riz, c'est-à-dire en deux fois, une première fois à l'eau, à beaucoup d'eau, Une fois que le riz est cuit à moitié, on verse l'eau, on fait au passoir, on vide l'eau avec l'excès d'amidon qu'il y avait, et après on remet ça dans la casserole avec un peu de beurre au fond de la casserole, et à l'étouffer à la vapeur, on laisse pendant à peu près 20 à 30 minutes.
On laisse caraméliser, quoi.
Voilà, et le dessous, évidemment, ça se caramélise un peu, enfin, caraméliser, c'est beaucoup dire, parce que c'est pas sucré, mais enfin, ça se grille
un peu.
Ça crame un peu, c'est très bon. Et dessus, ce qui est intéressant, c'est que le riz devient très long, très fin, long, et pas du tout collé. C'est-à-dire, comme les petits pois, si on renverse le riz cuit, tout coule, tout roule.
C'est comme le riz à la malgache.
Pas du tout.
Mais si. C'est exactement pareil.
Alors, moi j'ai mangé le riz aux bijoux avec le magret au château Saint-Louis, et puis à la cheminée, tout ça, je me suis régalé.
Enfin, c'est vraiment que moi qui suis invité nulle part.
Bah, ouais, voilà.
Ça n'a pas du tout existé.
On n'osait pas te le dire, Rémi, on savait pas comment présenter la chose.
L'ingrédient qui ne manque jamais dans votre cuisine ou dans la cuisine de votre femme, Ali Mahmoudi.
Le riz. Oui, ça
en tout cas, dans votre assiette. L'épice, peut-être, qui ne manque jamais dans votre assiette.
Non, il ne manque jamais rien, c'est vrai.
C'est l'opulence, c'est même vous dites.
Parce qu'on est très simple.
Mais ce que je veux dire, il y en a qui ne peuvent pas se passer de Worcestershire. Hein. Il y en a qui peuvent pas se passer de la sauce McG. Pour certains autres, ça va être beaucoup plus jeune avec des frites, ça va être le ketchup. Vous, c'est quoi ?
Moi, c'est le riz. Franchement, c'est le riz.
Le basmati.
Le basmati, bien sûr. Mmh. Bien sûr.
À tous les repas.
Si on me donne à tous les repas, je dis pas non. C'est vrai que je m'en lasse pas pour moi.
Aujourd'hui, gratin dauphinois avec du riz.
Oh. Ah non.
Réolé en dessert.
Oh non. Avec du riz.
Non. Galette de riz en entrée.
Il faut pas dire ça. Non, mais c'est vrai que pour moi, le riz, c'est comme dans une cuisine chinoise, c'est-à-dire ça remplace pratiquement le pain.
On arrive au bout de cette émission, messieurs. Ali Mahmoudi, je voudrais pas vous laisser partir sans que vous ayez pu, je sais pas, prononcer les paroles que vous aviez imaginé prononcer en venant dans cette émission. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas pu dire parce qu'on vous a tellement coupé la parole et que vous auriez rêvé de dire à l'antenne.
Ah, je ne sais pas, non, franchement. Non,
alors tout va bien.
Non, tout va bien.
Alors tout va bien.
J'ai dit
j'ai pas su combien coûtait votre vin. On en est à combien sur la table là ce soir ?
Mais il faut compter entre 8 et 10 euros. Évidemment à la propriété. Par contre, si vous trouvez dans quelques magasins, on peut le trouver des bouteilles à 11-12 euros la bouteille.
On est entre 8 et 12 euros de toute manière.
Voilà, de toute manière, entre 8 et 12 euros la bouteille. Pas plus.
D'accord.
Et aux États-Unis, par contre, c'est autour de 25 dollars.
Ça vaut le coup de ramener quand on va là-bas. Si vous allez en Californie, portez-en.
Saint-Louis, c'est un lieu magique. Il y a une très grande salle dans laquelle on peut faire des réceptions. Et l'été, souvent, il fait beaucoup de mariages.
Il y a un site internet.
Il y a un site internet, il suffit de taper Château Saint-Louis sur Google et hop, vous allez sur le site, vous verrez comment c'est. C'est un site qui est fait très très.
Par Pascal Olivier ?
Non, même pas.
Mais non, si, c'est
amélioré.
C'est fait avec.
C'est vrai que c'est fait comment ?
Beaucoup d'incompétence.
C'est pas celui qui le fait. Et qu'est-ce qu'on fait ce week-end ?
Qu'est-ce qu'on fait ?
Moi, je vais parler du Ubu sur la table, comédie loufoque, mal polie et
c'est vraiment bien ça.
À la Négrette, c'est à la Bastille Saint-Pierre.
Ouais.
Moi, si vous allez sur le site, très rapidement, si vous allez sur le site de Qu'est-ce qu'on déguste, il y a le père Ubu qui est venu à Qu'est-ce qu'on déguste, et on va le retrouver là, au théâtre.
Sous la forme d'un marteau, à la Négrette, à la Bastille Saint-Pierre.
Il est super.
Moi, j'irai demain soir voir l'orchestre du Capitole jouer à Moinsac, tiens.
Moi, ce soir, je vais au Vendanges écouter le Midnight Trio.
Et ce soir, je vais alterner entre les Vendanges pour voir Georges et chez Lulu, où il y a un concert avec Julien Brown, etc. Non.
Oh, donc, les rues ténoires. On est à Montauban. Oui, je sais, ça vous casse les couilles. Hein. Pardon. Mais parce que je me fais engueuler après sur le site internet de cfmradio.fr. On me dit,
si on reçoit des invitations pour des restaurants et des salles de concert ailleurs, on y va.
Merci Ali Mahmoudi d'être venu ici.
Merci Ami, merci tout le monde, merci de m'avoir laissé un peu de temps pour parler.
Merci pour tes vins. Salut Fronton, qui est bon.